Une femme m'a paru, chapitre 2. J'entrai, les tempes humides de bruine, dans le salon de Valli. Des lys tigrés ouvraient leurs vastes corolles d'où s'exhalait la véhémence des parfums. Vali, étendue languissamment sur un divan d'étoffe persane, recevait quelques amis. Sa robe blanche la voilait tout en la révélant. Elle excellait dans la composition savante de ses négligés lascifs. Ses cheveux dénoués nimbaient son front d'une auréole lunaire. Auprès d'elle, le savant Pétrus, traducteur et commentateur de Zoroastre, énonçait des sentences banales qui prenaient des sens pornographiques tant l'expression de ses lèvres grasses était libidineuse. Il ressemblait terriblement à un marchand de bazar levantin. Son geste ample semblait déployer des tapis trop éclatants devant des clients imaginaires. Sa conversation, comme sa manière d'écrire, évoquait les odeurs écœurantes, les couleurs barbares, tout le mauvais goût d'un Orient de pacotille. Il parlait trop, dans l'espoir sans doute de faire la contrepartie du silence de sa femme, la romancière au beau génie tumultueux qui ne parlait pas assez. Lointaine, elle paraissait égarée en un rêve perpétuel. Les plis flottants de sa robe verte ruisselaient autour de son corps fluide et la faisaient ressembler à une algue. Une fleur de géranium détachée ensanglantait ses cheveux ténébreux. Un peu à l'écart, Yonne, la sœur élue de mon enfance, s'enfiévrait d'une pensée hallucinante. Le front trop large et trop haut écrasait tout ce pensif visage. Il hypnotisait les regards et faisait presque oublier les yeux bruns mystérieusement tristes et la bouche tendre. Pareil à l'équivoque San Giovanni de Leonardo, à l'androgyne dont le sourire italien éclaire si étrangement la galerie du Louvre, une amie de Valli écoutait ma Lorelai développer sa théorie sur l'imitation dans l'art. San Giovanni était poète. Ses strophes étaient aussi perverses que son sourire. Sa renommée ne s'étendait point au-delà d'un cercle très restreint de lettrés et d'artistes. En revanche, sa loyale impudeur scandalisait également les bourgeois et les écrivains. Seuls quelques iconoclastes la vénéraient pour son audace. Ses volumes portaient des titres évocateurs de voluptés ambiguës. Sur le rythme saphique, Bona Dea et les mystères de Cérès et Leusine. L'imitateur est presque toujours mieux doué que le créateur, disait Valli, sous les regards approbatifs de San Giovanni. Ainsi le reflet est plus beau que la couleur et l'écho est plus doux que le son. Shakespeare est le merveilleux écho de Boccace, l'écho des montagnes qui amplifie la voix et la divinise en la prolongeant jusqu'à l'infini. Moi, je parlais à voix basse en me rapprochant d'Ione. Ne pense plus, ma trop méditative amie. Ne pense plus, je t'en conjure, au nom de notre très ancienne tendresse. Aime quelqu'un, aime quelque chose. L'amour est moins périlleux que la pensée. Je sais quelle hallucination te tourmente. Le mystère du monde inexplicable te hante perpétuellement. J'ai connu ces tortures devant l'inconnu. Pour échapper à la mortelle obsession, je me créais jadis une théorie de l'univers qui a, du moins, le mérite d'une extrême simplicité. Je crois que l'innommable, que l'incompréhensible est une pensée double, une pensée hermaphrodite. Tout ce qui est laid, injuste, féroce et lâche émane du principe mâle. Tout ce qui est douloureusement beau et désirable émane du principe femelle. Les deux principes sont également puissants et se haïssent d'une haine inextinguible. L'un finira par exterminer l'autre, mais lequel des deux remportera la victoire finale? Cette énigme est la perpétuelle angoisse des âmes. Nous espérons en silence le triomphe définitif du principe femelle, c'est-à-dire du bien et du beau, sur le principe mâle, c'est-à-dire sur la force bestiale et la cruauté. Ion considérait fixement ses longues mains, de la couleur des anciens ivoires. C'était chez elle une habitude maladive de contempler ses mains pendant des heures. Elle souriait sans me répondre. Oh, la tristesse du sourire d'Ion, plus angoissant que les larmes les plus amères. La voix de San Giovanni me rappela brusquement à la réalité. Elle défendait ses plus chères théories contre Pétrus, qui, avec des clignements d'yeux libertins, discutait les vers d'Alcée à Psapha. Tisseuse de violettes, chaste Psapha au sourire de miel, des paroles me montent aux lèvres, mais une pudeur me retient. « Pourquoi chaste ? » interrogeait-il. « L'immortelle amoureuse ne fut rien moins que chaste. » « Je vous plains, » interrompit l'androgyne, « de ne point concevoir un amour à la fois ardent et pur, comme une flamme blanche. » Tel fut celui que Psapha voua jadis à ses amantes mélodieuses. Cet amour évocateur de la beauté dans ce qu'elle a de plus suave et de plus délicat, n'est-il pas mille fois plus chaste que les solitudes claustrales où s'exaspèrent les songes obscènes et les monstrueux désirs? N'est-il point mille fois plus chaste que cette cohabitation fondée sur l'intérêt qu'est devenu le mariage chrétien? Que peut-on rêver de plus radieusement chaste que cette école de vierges fondée par une vierge, cette école de Mytilène où Psapha enseignait l'art complexe de la musique et des strophes? En un temps où, seules, les courtisanes recueillaient pieusement les belles harmonies, cet enfant de noble naissance osa se consacrer tout entière au culte divin des chants. Psapha fut certes la grande méconnue et la grande calomniée, songea Vali. N'a-t-on point confondu cette vierge et cette Batride avec une courtisane vulgaire? N'a-t-on pas inventé la légende d'un sot d'engouement pour le bellâtre Phaon, légende dont la stupidité n'a d'égal que le manque de vérité historique? Et enfin, n'a-t-on point adopté presque universellement cette hypothèse d'un mariage que les auteurs comiques d'Athènes inventèrent pour la ridiculiser? Ce prétendu mari, appuya San Giovanni, aurait, d'après Suidas, quitté l'île d'Andros en quête d'une épouse. Mais le nom de l'époux, Kerkolas, qui porte la plume, et celui de sa patrie, indique suffisamment le genre d'abjecte plaisanterie qui les enfanta. Ce n'était point d'ailleurs la coutume des Grecs de quitter leur cité dans l'intention d'épouser une étrangère. Une âme grossière peut seule substituer au divin sourire d'Attis et d'Eranna les profils barbus de Kerkolas et de Phaon, approuvai-je. La morale bassement bourgeoise s'est aussi emparée d'un fragment de Psapha. Je possède une belle enfant dont la forme est pareille à des fleurs d'or, Cléis, la bien-aimée, que je préfère à la Lydie tout entière et à l'aimable, pour transformer en fille légitime l'amoureuse esclave Cléis. » San Giovanni s'arrêta, pâlement courroucé. Cette image hideuse de bestiale maternité, après l'ode à l'Aphrodita et l'ode à une femme aimée. On a travesti jusqu'à son nom divin, ce nom sonore et doux de Psapha, auquel on a substitué l'appellation incolore de Sappho, soupira Valli. Sappho. Cela suggère impérieusement les statues médiocres et les vers poncifs par où la foule bourgeoise perpétue la plus grande image féminine qui jamais ait ébloui l'univers. Que je t'aime dans tes colères mystiques, ô ma prêtresse, murmurai-je très bas. Tu m'apparais alors transfigurée et presque surnaturelle. Pétrus n'en démordait pas. Il vantait maintenant la beauté masculine, supérieure, affirmait-il, à la beauté féminine. Voilà qui est effroyable, me dit à voix basse San Giovanni. Je suis convaincu que cet homme a l'âme et les mœurs du plus honnête bourgeois. Et pourtant il a l'air, en ce moment, d'un trafiquant louche qui proposerait aux touristes anglais des virginités de petits garçons. Il est involontairement obscène, comme tous les Levantins. On éprouve, après son départ, le besoin d'ouvrir les fenêtres et de secouer les rideaux. Les adolescents ne sont beaux que parce qu'ils ressemblent à la femme, répliqua Valli. Encore sont-ils inférieurs à la femme, dont ils n'ont ni la grâce d'attitude, ni les harmonieux contours. Quant à moi, médita San Giovanni, je crois qu'aucune statue de jeune dieu ne surpasse la magnificence ailée de la victoire de Samothrace, incarnation suprême de la beauté féminine. J'ai horreur des Hercules. Un Héraclès, accentua-t-elle, c'est l'apothéose du lutteur de foire et du garçon boucher. Je n'ai jamais pu m'absorber dans la contemplation des tendons et des muscles. Elle se recueillit en souriant. S'il est vrai, continua-t-elle, que l'âme revêt plusieurs apparences humaines. Je naquis autrefois à Lesbos. Je n'étais qu'une enfant chétive et sans grâce, lorsqu'une compagne plus âgée m'emmena dans le temple où Psapha invoquait la déesse. J'entendis l'ode à l'Aphrodita. La voix incomparable se déroula, plus harmonieuse que l'eau. Les strophes déferlaient comme des vagues, et mouraient et renaissaient avec un bruit de marée. En vérité, j'entendis autrefois l'ode à l'Aphrodita. Jamais le lumineux souvenir ne pâlit à travers les années, ni même à travers les siècles. Et pourtant, je n'étais qu'une enfant. Et, à cause de ma laideur et de mon trouble taciturne, Psapha ne m'aima point. Moi, je l'aimais, et lorsque je possédais plus tard des corps féminins, mes sanglots de désir allaient vers elle. J'étais en Sicile quand j'appris sa mort, mais cette mort était si glorieuse que je ne pleurais point, et que les larmes de mes compagnes me surprirent et m'offensèrent. Je leur rappelai ces paroles magnanimes. Car il n'est pas juste que la lamentation soit dans la maison des serviteurs des muses. Cela est indigne de nous. Moi, rêva la souriante Valli, j'étais un petit berger arabe. Je dormais tout le jour et je ne me réveillais qu'à l'approche de la nuit verte ou violette. Vers le soir, en suivant mon troupeau, je revenais de la montagne et je marchais au milieu d'une grande poussière rouge. Là-bas, j'avais vu, le premier, la lune qui se levait. Je courais jusqu'au village le plus proche en proclamant le lever de la lune. Et tous ceux à qui j'annonçais la grande nouvelle regardaient le ciel et se réjouissaient de voir à l'horizon la lueur d'ambre qui précède la lune. Pétrus méditait. Toute sa personne, légèrement obèse, exprimait le recueillement d'un pacha qui digère. « Pourquoi haïssez-vous les hommes ? demanda-t-il enfin à San Giovanni, en fixant sur elle ses lourdes prunelles. « Je ne les aime ni ne les déteste, » répondit San Giovanni conciliante. « Je leur en veux d'avoir fait beaucoup de mal aux femmes. Ce sont des adversaires politiques que je me plais à injurier pour les besoins de la cause. Hors du champ de bataille des idées, ils me sont inconnus et indifférents. » Pétrus donna à son visage huileux une expression solennelle. On eût dit un fakir accouchant d'une prophétie. Il contempla longtemps l'androgyne avant d'énoncer, d'un ton fatal. « Mademoiselle, vous tentez en vain de vous dérober à l'irrésistible séduction masculine. Vous terminerez certainement votre carrière amoureuse entre les bras d'un homme. » La fatuité innocente de son sourire eut adouci une pinte exilée. Mais une colère ensanglanta le visage du poète de Cérès et Leusine. J'arrêtai les paroles qui allaient jaillir de ses lèvres violentes et je répondis, d'un ton profondément choqué, « Ce serait là une aberration antiphysique, monsieur. J'estime trop notre amie pour la croire capable d'une passion anormale. »